Vous écoutez On lit pour vous.
Colombe crucifie Colombe, un texte de José Blanchette paru le 24 octobre 2025 dans Le Devoir. Si les monastères n'étaient pas aussi rigides, je rêverais d'y terminer mes jours entre broderie, méditation metta et repiquage de vivace en silence. Vous me direz, mais ma pauvre Joblot, tu as vraiment choisi le mauvais métier et le mauvais siècle pour être aussi misanthrope. Nous sommes tous connectés en permanence dans la grande toile du commentariat. Et personne n'y échappe, surtout pas les personnalités publiques. Je vous en passe un papier et une petite préparation H sans ordonnance. Je me répète souvent cette phrase de mon père si combatif. Colombe crucifie Colombe. Traduction imagée de « La paix, Chris, la paix ». Tiens, je suis tombé sur cette pensée Instagram l'autre jour. La planète n'a pas besoin de plus de gens qui ont du succès. La planète a désespérément besoin d'artisans de paix, peacemakers, de guérisseurs, de réparateurs, de conteurs et d'amoureux de toutes sortes. Amen. Ce souvenir que tu vas mourir est la meilleure façon que je connaisse d'éviter le piège de penser que tu as quelque chose à perdre. Steve Jobs, entrepreneur bouddhiste, il ne suffit pas d'attaquer le capitalisme et son système de compétition mortifère. Il faut parfois saisir à quel point nous avons intégré ces mécanismes en nous, nous déchiquetant les uns les autres dès que l'occasion s'en présente. L'ego est un assassin en série. La colère se cherche un objet, disait le maître de méditation Vipassana Goenka, aujourd'hui décédé, que j'ai interviewé dans une autre vie, à Sutton. Autrement dit, le sujet importe peu. La colère est une tique contagieuse qui s'agrippe. Ainsi les guerres, ainsi Gaza, ainsi l'Ukraine, 61 conflits armés enregistrés dans le monde en 2024, toujours en augmentation, tout comme les budgets pour en assurer la continuité. Comme disent les biscuits chinois, si tu veux la paix dans le monde, encourage la paix dans ton pays. Si tu veux la paix dans ton pays, fais la paix avec tes voisins. Si tu veux la paix avec tes voisins, cultive la paix dans ton cœur. J'ai punaisé ce proverbe au-dessus de mon bureau durant des années. La théorie sans la pratique, ce n'est que du savoir intellectuel. Shi Yangi. La paix n'est pas un Nobel. Le même jour où on annonçait les finalistes pour le prix littéraire Jeannette Bertrand, dont mon récit presque vierge faisait partie, je m'étais réveillé d'un cauchemar impliquant le prof pédophile dont j'étais la proie durant 5 ans. Le même jour aussi, la chicane allait bon train sur les réseaux sociaux au sujet de ma photo. Les autres candidates brillaient par leur absence, pas mon choix, et sur le fait que je sois blanche, comme Blanchette, et mainstream. Bref, encore une couche de zizanie étalée sur un traumatisme latent. Découragé, je me suis désisté du prix au grand regret de mon éditrice, et je souhaite la meilleure des chances aux finalistes tout en remerciant le jury. La saturation, l'usure, la sensibilité, le contexte permanent de guéguerre politique, sociale, clanique, même entre prétendus alliés, font qu'une goutte peut faire déborder un vase trop plein. C'est une loi physique. Il n'y a qu'à voir l'avortement du Cabaret des Cônes, spectacle de 12 féministes en colère dont Catherine Dorion et Martine Delvaux faisaient partie, épuisé de se faire harceler sur les réseaux sociaux. Le cabaret a été annulé le mois dernier au Club Soda en raison de cette même bisbille intestine. Les billets s'étaient volatilisés. On avait même ajouté une représentation. J'ai assisté à leur répétition en vue d'un article. J'ai acheté leur T-shirt à 25 $ en appui. Au final, les mêmes chamailles ont eu raison d'une parole se voulant libératrice et rassembleuse. Quelle ironie d'en faire les frais à mon tour, devenant la cible de féministes s'arrachant le peu de lumière sur la scène littéraire. Je ne souhaite pas être sous le projecteur de la discorde et me livrer à un concours de cicatrices. Par contre, je désire qu'on parle du sujet de presque vierge, de grooming scolaire, de prédation d'élèves et d'étudiantes par des adultes en position d'autorité et qu'on fasse du consentement un enjeu politique, ce qui n'est pas le cas présentement. Bonjour, mesdames Sonia Lebel et Martine Biron. Je ne souhaite pas que la discussion porte sur ma blanchitude non tatouée, woke, pâle ou pas assez transfuge. Mon égo s'en passe très bien. Pour le reste, mes hommages à Madame Bertrand, qui a tant fait pour les femmes et leur prise de parole. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Gandhi. La sagesse du moine. Malgré leur notoriété et tout ce qu'elles supposent de félicité instantanée, Leonard Cohen, ordonné moine bouddhiste, et Madonna, étudiante de la Kabbale depuis 28 ans, ont compris que les projecteurs n'apportent pas le bonheur. Au contraire, la quête spirituelle, elle, bonifie une forme de paix intérieure. Mon dernier mentor du genre se nomme Shi Yangi, le moine fondateur du temple Shaolin d'Europe, et il m'a remise sur les rails depuis une semaine. Il ne raconte pourtant rien de vraiment nouveau. Tu arrives avec rien, tu repartiras avec rien. Et il faudra que tu renonces à tout ce que tu as construit à la fin de ta vie. Dans une entrevue captivante avec Stephen Bartlett du balado de Diary of a CEO, le maître Shaolin répond à cette question si occidentale après avoir fendu deux briques du revers de la main. Êtes-vous heureux? C'est une question très difficile. Je ne recherche pas le bonheur, je recherche la paix. Cette entrevue est totalement en phase avec ma quête, celle que j'ai entreprise à l'adolescence en me familiarisant avec le bouddhisme. Et en vieillissant, le désir d'être en paix dans un monde épidermique, encoléré et réactif est devenu plus aigu. Tendre vers la sérénité, l'apaisement, le lâcher-prise nécessaire sur le bruit ambiant font partie d'une posture de survie à mes yeux. Shi Yangyi nous invite à cesser d'attendre que les choses changent de l'extérieur et à devenir les représentants de ce qui nous semble manquer ici-bas, façon Gandhi. La religion de ce moine est l'unité, oneness. Nous sommes tous liés d'une façon. Je le crois aussi. La division est un poison qu'on peut refuser. C'était Colombe crucifie Colombe, un texte de José Blanchette paru le 24 octobre 2025 dans Le Devoir.
Riche la plus atypique du Québec. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 9 novembre 2025 dans La Presse. Membre du 1% des plus riches au Québec, Claire Trottier milite pour payer plus d'impôts parce qu'on assiste, déplore-t-elle, à une accumulation de richesses et de pouvoirs absolument hors contrôle. Inquiète par la croissance des inégalités, elle consacre tout son temps à défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Il faut beaucoup de force, de caractère et d'authenticité pour exprimer des opinions contraires à celles de son groupe social. Quand la très riche Claire Trottier milite pour payer plus d'impôts ou qu'elle dénonce les millionnaires qui usent de leur influence pour conserver leurs privilèges financiers, on devine qu'elle doit se faire regarder de travers. Pourtant, elle a choisi d'en faire une carrière, tout en étant propriétaire d'un commerce qui réunit trois autres de ses passions, les romans d'amour, le bon café et les nachos. Réfléchie, férue de science, ricaneuse. Claire Trottier ne mène pas une vie ordinaire. Elle pourrait se la couler douce à temps plein. Mais non. La femme de 45 ans est, en quelque sorte, la preuve vivante que l'on peut avoir accès à une fortune familiale colossale et ne pas chercher à la dépenser ou à la croître. En fait, c'est tout le contraire. Elle remet en question les mécanismes qui permettent une telle accumulation de richesses. J'ai fait le choix d'essayer d'aligner mes actions avec mes valeurs, dit-elle doucement. Sa situation financière, qu'elle doit à son père, entrepreneur, Lorne Trottier, lui donne la flexibilité d'utiliser son temps comme bon lui semble. Elle a décidé de mettre cette liberté au service de la justice sociale et fiscale, des migrants qui ont choisi Montréal, des changements climatiques, de la démocratie. C'est ainsi qu'au début de la quarantaine, elle a quitté son poste de professeure adjointe en microbiologie à l'Université McGill pour se consacrer aux causes qui lui tiennent tant à cœur. Au Québec, on n'a pas vu beaucoup d'autres enfants de milliardaires prendre ce chemin inusité. C'est précisément pour ça que son parcours piquait ma curiosité. C'est quand même inhabituel d'avoir la capacité d'exister et de travailler dans différentes sphères, comme j'ai la chance de le faire, reconnaît-elle. Dans une même journée, elle peut passer du temps avec des demandeurs d'asile et débattre de fiscalité avec des experts de la haute finance. Elle siège à divers conseils d'administration, dont celui de Patriotic Millionaires Canada, en plus d'avoir fondé le collectif Bienvenue, soutien aux demandeurs d'asile, et la fondation Euphrosyne, droit de la personne et démocratie. Cette polyvalence lui permet d'être une voix singulière dans des conversations souvent homogènes. Le fait qu'on est dans un monde où il y a des inégalités vraiment profondes, c'est un problème, dit-elle. Je suis vraiment très motivée par l'enjeu d'avoir une société où tous les Canadiens ont une voix et où le pouvoir est moins concentré. Née en 1980, Claire Trottier a grandi à Kirkland, dans l'ouest de l'île. Elle parle de son enfance comme d'une période normale, mais tout de même confortable, agrémentée de voyages annuels en Floride. Déjà vraiment nerd, elle s'intéresse à la science, tout comme son père, qui lui parle des galaxies et de la formation des étoiles. Au West Island College, une école secondaire privée, elle commence à faire de l'impro et à côtoyer des riches qui lui font sentir qu'elle ne porte pas la bonne marque de souliers. Mais comme ses parents, elle ne tombe pas amoureuse du luxe extravagant. Ce n'est pas faute de moyens. À l'époque, l'entreprise de son père, Matrox, devient extrêmement profitable. Mais l'ostentatoire n'est pas dans les valeurs du clan. Ma mère, jamais qu'elle ne s'achèterait un sac à main Chanel. Jamais. Une simple citation parue dans la presse en 2022 résume tout. Lorne Trottier venait de vendre pour 1,1 milliard une division de sa société de haute technologie. L'acquéreur lui avait suggéré d'emmener sa femme manger dans un grand restaurant pour célébrer la transaction. On a pensé aller au Saint-Hubert, mais finalement, on n'a pas eu le temps, avait-il raconté au collègue Jean-Philippe Descaries. Savoureux! C'est donc dans cette famille discrète qui valorise hautement l'éducation, la science et l'engagement social que Claire s'est dirigée tout naturellement vers des études en microbiologie et immunologie. Maintenant mère de deux garçons de 11 et 14 ans, Elle se décrit ainsi sur LinkedIn. Défenseur de la justice sociale et économique, philanthrope, chef d'entreprise. La militante s'inquiète de voir que l'on accorde plus de crédibilité et d'attention aux riches, qu'on suppose hyper intelligents, hyper capables de résoudre les problèmes. Cela n'est pas sans conséquence, croit-elle. On assiste à une accumulation de richesses et de pouvoirs absolument hors de contrôle en ce moment, affirme-t-elle. Ça fait en sorte que nos politiques publiques, nos décideurs, souvent vont prendre des décisions qui vont renforcer cette accumulation de richesses et de pouvoirs pour la classe des plus riches. Claire Trottier me donne quelques exemples. Les pipelines dans l'Ouest canadien et l'idée de mieux intégrer nos capacités militaires avec les États-Unis. Je trouve ça extrêmement dangereux. Et puis, ce sont des positions qui renforcent, d'après moi, les intérêts de ceux qui ont déjà beaucoup de pouvoir au Canada. Construire un nouveau pipeline, dénonce-t-elle, ne ferait qu'enrichir davantage des sociétés pétrolières en utilisant les impôts des citoyens ordinaires, tout en contribuant à la crise climatique. Évidemment, elle me parle de l'impôt sur le gain en capital. L'an dernier, Ottawa a annoncé son intention de faire passer le taux d'inclusion de 50 % à 66,7 % pour la tranche excédant 250 000 $. La mesure devait toucher 0,13 % de la population canadienne. Le lobby des riches a vraiment pris le dessus, très, très, très rapidement. On l'a vu dans les médias. Claire Trottier a tenté de faire publier une lettre ouverte en faveur de cette mesure dans les journaux anglophones. Je me suis fait refuser. En même temps, ces journaux-là avaient tous les jours au moins deux tribunes de gens qui écrivaient « Ah, mon chalet, mon ci, mon ça! » Mais ils ne pouvaient pas publier une lettre d'une personne riche en faveur du changement. J'ai trouvé ça vraiment inquiétant. Sa lettre peut être lue sur le site de l'Institut de recherche en politique publique, IRPP. Son invitation à une conférence sur la philanthropie a même été annulée à la dernière minute, car un commanditaire ne voulait pas être associé à une personne favorable à cette hausse. C'est vraiment difficile de faire valoir un point de vue qui critique le statu quo. En arrivant au pouvoir, Mark Carney a annulé la hausse d'impôts proposée. Pourtant, la fiscalité entourant le gain en capital est une injustice qui ne profite qu'aux riches, plaide Claire Trottier. C'est comme si, une fois que tu es suffisamment riche, on te dit « Félicitations, vous avez gagné au capitalisme. En échange, on vous donne des cadeaux fiscaux. Vous n'avez plus besoin de payer d'impôts sur 50 % de votre revenu. » C'est complètement ridicule. On s'en doute, lorsqu'elle regarde ce qui se passe au pays de Donald Trump, Claire Trottier est tout sauf rassurée. C'est là que ça mène, de continuer à creuser le gouffre entre les plus riches et les plus pauvres, de consolider le pouvoir dans les mains de très peu de personnes ultra-riches. Ça mène à un gouvernement autoritaire qui est complètement obsédé par l'enrichissement de ses amis. À travers ses luttes et ses inquiétudes, Claire Trottier prend le temps de lire sans aucune culpabilité des livres d'amour, un style littéraire un peu snobé. Avec sa sœur Sylvie, elle s'est lancée dans la vente au détail en ouvrant, il y a 4 mois, une librairie bilingue. Joie de livres réunit des éléments que les deux femmes aiment. Littérature, cocktail, café, bonne bouffe, nachos. Cette petite touche de fantaisie est nécessaire à l'équilibre de la militante. La joie est essentielle pour avoir l'énergie pour continuer les combats pour vivre dans ce monde, conclut-elle, philosophe. C'était L'ultra-riche la plus atypique du Québec, un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 9 novembre 2025 dans La Presse.
La CAQ et les communautés 2SLGBTQ+, la lune de miel serait-elle terminée? Une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 31 octobre 2025 dans le magazine Fugue. Certains parlent de recul, mais restons positifs et optimistes. Peut-être n'est-ce qu'une pause. Toutefois, compte tenu des dernières prises de position du gouvernement caquiste, force est de constater que le fossé se creuse au regard des dernières décisions de certains ministres. Passons rapidement sur le fameux comité des sages décidé par le gouvernement pour faire le point sur les jeunes trans et au sein duquel ne se trouvait aucune personne trans, ce qui était déjà une claque infligée et une non-reconnaissance de tous les organismes trans qui ne cessent de produire de la documentation pour rassurer le reste de la population. Rappelons que la CAQ est mise à mal dans les sondages. Et pour son chef, qui souhaite de nouveau être élu en 2026, rien n'est trop beau pour séduire une partie de l'électorat plus conservateur ou encore pour jouer dans les plates-bandes du Parti québécois. Et on le sait, ni les conservateurs, et dans une moindre mesure le Parti québécois, ne sont très ouverts quand il est question du genre. Loin de là. Alors, tranquillement, le gouvernement prend un virage à droite quand il s'agit des droits de la personne, des 2SLGBTQ+, ou encore de l'immigration. Un remaniement ministériel a eu lieu et il n'y a aucun ministre responsable du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. En fait, cette responsabilité revient à la secrétaire à la condition féminine, Caroline Proulx. Il est précisé dans le libellé de son poste que la secrétaire portera une attention à la sensibilisation aux réalités spécifiques des personnes LGBTQ+ et au respect de leurs droits. Pas bien méchant, diront certains, d'autant qu'après le passage de Martine Biron, dûment responsable du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, plusieurs se disaient, et j'en suis, à quoi cela a-t-il servi d'avoir un ou une ministre, compte tenu de son peu d'action au cours de son mandat? Mais il y avait une dimension symbolique importante de voir les communautés 2SLGBTQ+, reconnues au même titre que les aînés et les femmes. Elles sont à présent reléguées au second plan. Respect de leurs droits. On a hâte d'entendre la ministre Caroline Proulx s'exprimer sur la directive du ministère de la Sécurité publique du Québec, en date de juin dernier, qui mentionne que dorénavant les personnes incarcérées seront détenues selon leur sexe anatomique. Avant cette directive, on tenait compte de l'identité de genre pour déterminer l'établissement dans lequel une personne serait incarcérée. Cette décision a été prise de façon unilatérale et sans consultation avec les personnes et les groupes intéressés. De quel respect des droits des personnes LGBTQ parle-t-on alors? Et n'est-ce pas la preuve d'un recul? Enfin, tout récemment, le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, a annoncé que l'usage de l'écriture inclusive serait interdit dans toutes les sociétés d'État. Pour se justifier, il dit suivre les recommandations de l'Office québécois de la langue française, OQLF. À croire que le ministre n'a pas lu sur le site de l'OQLF la page sur l'écriture inclusive. Rédiger épicène pour des écrits plus inclusifs. Certes, l'OQLF reste conservateur, mais fait preuve d'ouverture et est sensible aux changements qui se produisent tout en proposant des solutions. En aucun cas, il n'est suggéré d'interdire. Pas de quoi s'affoler, mais quand on veut supprimer des droits, on commence généralement doucement. On rabote tranquillement. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on s'en rend compte. On n'interdit pas forcément l'avortement, mais on en resserre les critères pour y avoir accès. Et l'on s'en prend aux personnes trans qui font tache dans le portrait des sociétés hétéronormées. Normal. Ils et elles sont moins nombreuses et nombreux, et de plus, ont l'audace de réclamer d'être des citoyens, citoyennes à part entière, et non de seconde zone, avec des devoirs, certes, mais aussi des droits. Reste à savoir quelle stratégie adopter. On continue à maintenir des liens avec le gouvernement en privilégiant des liens plus personnels avec des ministres auxquels on fait part des inquiétudes, en leur demandant ce qu'ils et elles peuvent faire. On ne veut pas que les portes soient complètement fermées. Une stratégie qui commence à montrer ses limites. Dans les exemples choisis de ce recul, en aucun cas les groupes communautaires n'ont été consultés et le strapontin que leur a offert le comité des sages n'a été qu'une mascarade, puisque leurs recommandations ne se retrouvent pas dans le rapport final. Il est peut-être temps de se tenir debout, comme viennent de le faire le Conseil québécois LGBT et Jury Trans, qui ont mis en demeure le gouvernement du Québec afin qu'il revienne sur sa décision d'incarcérer les personnes dans des établissements pénitentiaires en fonction de leur sexe anatomique et non selon leur identité de genre. Un premier pas, mais qui pourrait être suivi par d'autres quand les communautés 2SLGBTQ+, voient que leur reconnaissance et leurs droits sont attaqués. D'autant plus que, comme on le voit en lisant les chroniqueurs et les chroniqueuses sur les réseaux sociaux d'ici et d'ailleurs, le coming out homophobe et transphobe est de plus en plus dans l'air du temps. On ne se gêne plus, on ne se garde plus de petites réserves, on assume sans aucune vergogne. Il est bon, pour des responsables d'organismes, de se retrouver à la Garden Party organisée par François Legault chaque mois de juin, de se faire prendre en photo avec les ministres et de les publier pour montrer que tout va bien dans le meilleur des mondes. On me répète que c'est important d'y être pour maintenir des liens interpersonnels avec les décideurs et les décideuses, mais les bulles de champagne doivent avoir un goût de plus en plus amer. C'était la CAQ et les communautés 2SLGBTQ+. La lune de miel serait-elle terminée? Une chronique de Denis-Daniel Boulay, parue le 31 octobre 2025 dans le magazine Fugue.